à la fonction. Et à la limite, si l'ensemble des métiers humains se résorbe dans ces deux polarités, celle que je vous nomme, c'est l'agriculture, c'est-à-dire et qui a pour objet d'assurer la nourriture, et l'autre, l'industrie, qui a pour objet d'assurer l'aménagement du monde en tant que demeure de l'homme. Oui, c'est pas difficile à comprendre. Et on voit que apparaissent les dimensions, les fonctions de loisirs, de distraction, qui sont corollaires. Les arts, d'ailleurs, l'ethnologie le montre de façon très claire, les arts sont la distraction corollaire de la société agricole et la débauche est la distraction corollaire de la société citadine. Enfin, je schématise les choses pour vous montrer le cadrage de la société fonctionnelle. Il n'y a finalement que deux préoccupations de l'homme, quel que soit son métier, collaborer à ceux qui donnent la nourriture ou collaborer à ceux qui fabriquent les outils, quelle que soit, encore une fois, la spécialisation du métier, et d'autre part, tout se résorbe dans deux formes de distraction, une qui est l'art et l'autre qui est la débauche. C'est facile à comprendre. Oui. Si vous voulez faire une analyse spectrale, comme on dit, d'une société contemporaine, vous retrouvez à tous les niveaux ce même stade. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est-à-dire que tout est organisé dans la société pour distraire, dans le sens qu'employait Pascal, ce terme, pour distraire l'homme du problème moral en l'engouffrant dans le problème social qui se développe en quatre fonctions, et bien finalement, toutes les préoccupations de l'agriculture, les préoccupations de l'industrie et les distractions corollaires. Vous comprenez donc la question de la société devenue fonctionnelle. C'est le résultat ultime de la perte de la dignité de la personne par le meurtre de Abel. Et nous étions arrivés donc au stade où l'homme ne s'appelle plus du nom de l'homme, il a donné le nom de l'homme à la ville, vous vous rappelez, Hanov, oui. Et alors l'homme s'appelle Irad, et Irad ça veut dire l'homme de la cité, c'est-à-dire un numéro sur un registre. Le citoyen dans le sens impersonnel, dépersonnalisé. Vous y êtes? Il me semblait qu'on était allé un peu plus loin, mais enfin, puisque c'est vous qui avez raison, c'est donc moi qui dois m'excuser. Ce que j'ai déjà fait, alors en fait. Les stades intermédiaires, je vous les lis très rapidement, à partir de Irad, alors suivez dans le texte, verset 18. Verset 18, Vaïvaled la Hanor et Irad, et fut enfanté à Hanor. Hanor, c'est la manière d'être homme qui donne son nom à la ville. Alors je vous rappelle, ce stade est très important, c'est le problème social qui se substitue au problème moral. Le problème moral, c'est le problème de la relation entre les personnes. Le problème social, c'est le problème des institutions. Et ce n'est pas le même. Or, nous vivons, déjà depuis longtemps, dans une civilisation analogue où, effectivement, le problème social s'est substitué au problème moral. C'est bien clair? Oui, dans le chapitre 4. Alors, un peu d'entraide, là. Montrez-vous. Ah oui, Hanor signifie l'éducateur. Oui, vous vous rappelez de ça? Alors, la fonction formatrice est appropriée par l'homme lui-même, c'est le résultat du stade de Caïn. Et cette fonction éducatrice appropriée par l'homme est donnée à la cité au détriment de l'homme. C'est la ville, ça se passe ici, c'est la ville, ne vous laissez pas distraire, c'est la ville qui prend le nom de l'homme. Et non plus la personne humaine. Vous voyez ? Résultat, l'homme n'est plus l'homme, il n'est que le membre de la cité. Il s'appelle Irad. En hébreu, Ir, c'est la ville, Irad, c'est l'homme de la ville. Oui ? Mais pensez-le en hébreu maintenant, parce qu'en français, ça ne veut plus rien dire. C'est bien clair ?
Irad.
Vous avez compris ce que ça veut dire ?
En hébreu,
non. Pensez la notion que l'essentiel, c'est devenu la ville, et l'homme n'est plus que un robot dans la ville. Ça, vous pouvez faire un film avec ça. C'est bon. Vous voyez de quoi il peut s'agir, d'accord ? C'est-à-dire, nous avons les stades où la société devient fonctionnelle, c'est-à-dire que la fonction prime la personne. Vous y êtes ? On n'est plus monsieur un tel agriculteur, il y a l'agriculture qui utilise tant d'individus. Vous y êtes ? c'est la société planifiée, c'est la société fonctionnelle. Ce n'est plus l'homme qui est la valeur, c'est la fonction, et l'homme est écrasé par la fonction. Vous voyez, c'est le résultat nécessaire et inévitable de la suppression de Abel. Il n'y a pas d'autrui. L'appropriation de l'identité par l'un, en supprimant l'autre, c'est qu'il se condamne à ce que je vous appelle la société dépersonnalisée, ou impersonnelle, ou fonctionnelle. Est-ce que c'est bien clair? Et vous pouvez déjà comprendre, nous le verrons beaucoup plus tard, en tout cas c'est le verdict de la Torah, il n'y a pas de compromis entre les deux formules. Ça ne peut pas être l'un et l'autre. Ça ne peut pas être une cité où la fonction est l'homme et la valeur. Du coup, c'est ou l'un ou l'autre. Ou bien c'est l'homme qui est nommé, et la ville c'est l'endroit, c'est sa demeure, et c'est lui qui organise sa demeure, ou bien c'est la ville qui est nommée, et c'est les nécessités de l'endroit qui le contraignent, et si c'est la ville qui est nommée, l'homme n'est plus rien. Il n'est plus qu'une quantité. C'est la ville qui est devenue la qualité, mais la qualité impersonnelle. L'homme est écrasé par l'organisation sociale. Et ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est cela, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix entre ces deux formules. Parce que c'est bien clair. Il me semble que nous avons parlé longuement de cela. Je vous ai cité la querelle qu'il y a eu au moment de la fondation de l'État d'Israël, pour savoir comment l'État serait nommé. Non ? C'est pas vous que j'ai parlé de ça ? Oui, bon, alors j'en ai au moins vaguement parlé. Et bien, c'était à ce propos. Hein ? C'est que c'est pas le pays qui se nomme Israël, c'est le peuple qui se nomme Israël. Et le pays se nomme Eretz Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël. Et c'est une philosophie de la société qui est radicalement différente. Nous sommes actuellement dans un stade de compromis où le pays s'appelle Médina Israël, mais je crois que c'est très cachère parce qu'on entend encore tout Eretz Israël. On ne peut pas appeler ce pays Eretz Israël parce qu'il n'y en a qu'une partie. L'occupation est comprise, il manque encore autre chose. Bien. Alors voilà les stades suivants, s'il vous plaît. Voilà donc les stades suivants. Ve'irat yalad et mechuyael. D'après le Midrash, mechuyael signifie, voyez que le nom de El est déjà introduit dans le nom de l'homme. Mechuyael signifie malade par l'intervention de Dieu, littéralement. Alors c'est facile à comprendre. Dans l'expérience de... Après l'ère classique, apparaît l'ère romantique. Vous comprenez? Voilà. Mechuyael, c'est l'homme qui a le spleen. C'est comme ça qu'on disait dans l'histoire de la littérature. Voilà. Vous avez compris de quoi il s'agit. De mon temps, on disait un autre nom. Un autre nom, comment on appelait ça, j'ai oublié. Le Vagalam, le magicien. Oui, c'est ça. Bon, et le stade? Vous voyez, c'est déjà l'homme qui perçoit qu'il est malade. Bon. Mechuyael, malade par Dieu, par l'intervention de Dieu. Enfin, gardez surtout la notion. Et voyez comment se trouvent être les enchaînements. Caïn engendre Hanor. Et alors, Hanor, c'est la ville. Alors, Hanor engendre Irad. Irad engendre Mechuyael. C'est là un grand principe. Quelqu'un qui sait qu'il est malade peut guérir. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade ne peut pas guérir, il est condamné. Alors, être margis, ça veut dire ressentir que l'on est malade, c'est déjà un salut possible. C'est une perche qui est tendue. Vous y êtes? C'est très proche de ce que le Rav nous a dit ce matin concernant le fait de vous rappeler, de se rendre compte qu'on mange des chardons et que l'on n'est pas satisfait par ça. Oui? Stade suivant, mais touche à elle. C'est plus que la maladie, c'est l'accablement. Ça, c'est le symbolisme. Après Musset, c'est Baudelaire. Hein, c'est Metouchaël. C'est accablé. Oui. Et Metouchaël, il y a là des lémer. Et Metouchaël engendre lémer. Et lémer, c'est le premier poète. Lémer, c'est... Homère. Non, c'est pas Homère lui-même, enfin, c'est les Aed. C'est cette espèce de sursaut qui fait que, quand même, l'exigence humaine s'exprime au niveau de la poésie. Et qu'est-ce que c'est que la poésie? Ben, c'est le propre de celui qui n'est pas capable d'être prophète. Ben, on n'ose pas parler des choses de la destinée en clair, alors on fait des poèmes. Vous y êtes? Vous avez bien compris? Bon, marquez, il y a un âge où il faut évacuer la tendance à la poésie, il faut en faire 13 à la douzaine, et se débarrasser très vite de la capacité poétique que l'on peut avoir à cet âge. Si, si, parce que je ne sais plus qui disait, si un jeune homme de 17 ans fait des poèmes, bon, ben c'est qu'il a 17 ans. Si un homme de 40 ans fait des poèmes, c'est que peut-être il est poète. Vous avez compris? Bon, enfin, non, non, mais c'est sérieux. Il y a un âge où il faut faire des poèmes le plus possible. Comme ça, c'est fini, on s'est débarrassé. Alors, si vraiment on est poète, ça se verra plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, en tout cas, c'est ce stade de l'émer, et d'ailleurs, il va s'exprimer en poésie, tu vois. Et que disais-je? Oui, c'est important comme stade. C'est-à-dire, on n'ose pas accéder à l'expérience prophétique. C'est-à-dire, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi dans la poésie? On parle des thèmes de la destinée humaine, oui, mais on en parle sans en parler. C'est-à-dire, on se donne le droit de parler de choses dont on n'ose pas parler, parce qu'on a peur de ne pas être écouté, en faisant semblant qu'il s'agit de poésie. Est-ce que vous comprenez bien cela? La pratique de la poésie, pour l'identité traditionnelle juive, c'est une chose très ambiguë, très très ambiguë. Alors, c'est-à-dire, bon, de quoi il s'agit? Tu veux dire quelque chose concernant la destinée, dis-le. Et tu peux le dire bellement, joliment, mais c'est pas la peine de tourner les choses à l'envers, hein, et de faire de la poésie pour faire semblant de parler de philosophie. C'est clair? Par exemple, cette attitude qui consiste à dire, à féliciter la Bible, style poétique. Ça, on l'a assassiné. étant donné que c'est la Bible, alors c'est aussi poétique. Du prinat de gamme. Enfin, mais l'objectif d'Ézéchiel, c'était pas de faire des poèmes, c'était de dire des prophéties. Seulement comme c'est Ézéchiel et c'est la prophétie, ceci dit, c'est très beau. Aussi, pour un poète. Mais celui qui voit que la poésie, eh ben, est complètement à la surface. Est-ce que vous comprenez? Oui? Alors ça, c'est l'émer. Et c'est un stade de la, si vous voulez, c'est un stade de la civilisation où, par exemple, le ministre de la Culture, c'est Malraux. Vous voyez? Ça passe parce que il fait de la poésie. Alors que normalement, enfin dans un pays comme la France, pour elle-même, ça devrait être l'archevêque de Paris. Non mais qui est le ministre de la Culture? C'est pas l'archevêque de Paris, c'est Malraux. Oui? Et qu'est-ce que fait Malraux? Il fait semblant de parler comme l'archevêque de Paris. Alors ça passe. Et qu'est-ce que fait l'archevêque de Paris? Il essaie de parler comme Malraux et il n'y a pas moyen. Je n'ai pas parlé du grand rabbin de Paris. Hein. Bon. Alors, vous avez compris donc qui est l'émer. Je dis, il ne faut pas se tromper de genre. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit exactement comme Homère, l'émer est aveugle. C'est normal, hein, le grand poète est aveugle. Il ferme les yeux et il parle. C'est important de savoir qu'il est aveugle pour la suite de ce qui va se passer avec Toubal-Gaï. Et alors voilà ce qu'on nous dit. Vaïkar lo lemer, shtenashim. Lemer a pris deux femmes. Mais je suis persuadé que vous m'avez parlé de tout ça.
Non.
On était dans la salle là-bas. Ça va, ça va, je vous crois. Béhouna, je dois avoir des retours de mémoire. D'ailleurs, le nom de ces deux femmes est aussi significatif, mais je voudrais quand même avancer. Alors, on s'aperçoit qu'il y a véritablement une chute définitive concernant la perte de la dignité d'autrui. Vous vous rappelez, à la première génération, le problème de rapport d'autrui à autrui, c'est entre Adam et Chava, entre l'homme et sa femme. Et il s'agit de constituer la dignité réciproque d'époux-épouse. Vous savez que d'ailleurs, il faut aller plus loin, et avec les patriarches, il faut dépasser ça et arriver au niveau du frère et de la sœur. C'est bien clair? Alors là, le Midrash nous met en évidence, en étudiant les noms de ces deux femmes, ceci. C'est que l'émer a pris deux femmes, une pour faire des enfants, et l'autre pour trôner dans le salon. Mais de la manière, comment dire, très différente de ce qu'on trouve dans la société moderne. Dans la société moderne, on a une femme légitime pour faire des enfants, oui, et puis une concubine pour le reste. Et les mères, c'est l'inverse. Hein? La femme légitime, c'est celle à qui il fait avaler des pilules, c'est-à-dire c'est pour trôner dans le salon, et puis là, en plus, une servante pour lui faire des enfants. C'est juste le contraire. D'ailleurs, à bien regarder, derrière la situation légale, la situation réelle est comme ça. C'est-à-dire que c'est celle qu'on prend, enfin, dans les ménages cosmopolites, enfin, cosmopolites, de la civilisation contemporaine, celle qu'on prend pour faire des enfants, c'est une servante. Et puis c'est l'autre qui l'a. Et à ce propos, d'ailleurs, le Talmud donne, à propos de l'émer, pas la référence en tête, mais il donne l'indication qu'il existait des élixirs, enfin, qu'ils avaient des breuvages pour anticonceptionnels, pour empêcher. Et alors, raffinement de malice, c'était à tour de rôle. Quand on entend tant, c'est la première qui fait des enfants et l'autre qui trônait au salon, et puis ensuite, ça c'est quoi. Alors, tout ça, une chose dans l'autre, je schématise, ça nous indique que la dignité de la relation avec autrui, autrui étant la femme, est complètement disparue. Ouais. C'est clair? Ça veut dire que c'est une situation d'impasse, d'échec total de ce qui se cherche dans le problème humain depuis le premier homme et à travers ces différentes générations. Et l'indice en est que la situation de la femme est dégradée. Je vous disais d'ailleurs, quelle que soit l'officialité légale de la relation matrimoniale dans les pays civilisés, la réalité est inverse. Imaginez qu'un explorateur martien dégringole sur la Terre et va y faire des travaux technologiques. Là, on va l'envoyer à Paris pour demander quelle est la légalité, la loi pour la relation matrimoniale. Alors, on va dire ici, on est monogame. C'est pas vrai. La réalité est autre. C'est pas la monogamie. Oui, c'est la situation de l'émer. Vous savez ça. Le français dit qu'il est monogame. Il n'est pas monogame. Vous avez l'air déphasé. Oui, vous êtes bien d'accord. Bon, là, c'est le même problème. Et voilà que c'est à ce stade où il y a encore, ils se permettent encore de critiquer la loi mosaïque selon laquelle on peut être polygame. Bon, enfin, je reste au problème. On est donc au stade où la société est devenue fonctionnelle. Oui. Et je vous ai décrit tout à l'heure les quatre fonctions principales. Alors, à ce stade-là, voici ce qui arrive. Prenez donc au verset 23, on a énuméré les noms des enfants et leurs fonctions. Verset 23, « Vayomer l'émer et nachar » et l'émer dit à ses femmes, « Ada et Sila Ashma Ankoli » Vous voyez, il parle comme un poète, « Ada et Sila, écoutez ma voix »« Nech et l'émer Azena Imrati »« Femme de l'émer, écoutez ma parole » Malheureux, tout à fait. « Ki ish harati le fisaï » car j'ai tué un homme pour ma blessure, Veyele la Haburati, et un enfant pour ma meurtrissure. Kishivataim yukam Kaïn, car si pendant 7 fois Kaïn est en sursis, l'émer Shibim le Shibra, l'émer le sera pendant 77 fois. Bon, ça ne veut rien dire, c'est un poème. Alors on va essayer de réfléchir à cette espèce d'envolée de l'émer à ses femmes, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, on va appeler Rachid le Midrash au secours. Mais ce qui est important, c'est de voir la transition, verset 25. Vaïdar Adam Od et Ishto, et alors à ce moment-là, quand l'émer adresse ce madrigal à ses femmes, à ce moment-là, Adam connut de nouveau sa femme, Hava, Vatelet Ben, elle engendra, elle enfanta un fils, Vatikret Shemoshet, et elle le nomma Shet, qui châtli Elohim, Zera Acher Tachadrim El Kirado Kaïn, car dit-elle, Dieu m'a fait une postérité stable à la place d'Abel, que parce que Kaïn l'avait tué. Et donc Shet apparaît à ce moment-là comme remplaçant, Shet, comme remplaçant de Caïn pour reprendre la fonction d'Abel, pour reprendre par rapport à la civilisation de Caïn la fonction de Abel. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un stade d'impasse totale. Alors je reprends très brièvement l'ordre des événements entre les versets. Il dit ceci. Voilà ce qui est arrivé. Caïn avait, si vous vous souvenez, un sursis de 7 générations. Vous vous rappelez de cela? Bon. Et quel est ce sursis de Caïn? C'est le fait qu'il faut que l'histoire montre s'il est vraiment innocent ou coupable. Vous vous rappelez, nous en avons parlé, ce meurtre, finalement, Caïn s'en défend d'être responsable et Dieu lui donne un sursis. Je ne reviens pas dans les détails de ce que nous avions vu, ça prendrait autant de temps, mais vous comprenez. Là. Et il est protégé par un sursis jusqu'à la 7e génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'il y aura, en fin de compte, à la fin de son temps d'histoire, dévoilera ce qu'il était au commencement. Si cette civilisation réussit, alors c'est que Caïn était innocent. A posteriori, par sa descendance, qu'il sera ou justifié ou condamné. Or, qu'est-ce qui arrive, dit le Midrash? Il arrive ceci. Toubal-Caïn, qui est le forgeron, a, en fabriquant des outils, a fabriqué une arme, la première. Et c'était, d'après le Midrash, un arc. Et lorsque il a fabriqué cet arc, il est allé l'essayer. Tire de sujet, bon. Et il a demandé à Lémèche, qui était son père, le poète aveugle, de l'accompagner dans la forêt pour essayer la première fusée, comme on appelle ça ici, Coralie, je ne sais pas quoi. Bon. Comment? Oui. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Au loin, il y a une forme vivante qui est passée, ils ont pris ça pour un animal, or c'était Caïn qui passait au loin. Et puis voilà que Toubal-Caïn, qui était un enfant en train de jouer avec ses canons, a tiré sa première flèche, et la flèche est arrivée sur le front de Caïn. Alors qu'est-ce qu'il y avait marqué sur le front de Caïn? Rappelez, il y avait marqué « aimé », et la flèche est arrivée sur le halal, il est resté « mais ». Et il en est mort de ses vies. Alors, ensuite, vous comprenez ce que veut enseigner le Midrash? C'est que ce qu'il y a d'unité dans l'homme a été atteint, alors il reste un mort-vivant. Alors, donc Toubal-Caïn invite les mères à aller voir la proie que l'on avait, le résultat de balistique. Alors les mères arrivent avec Toubal-Caïn, les mères est aveugle, Toubal-Caïn est enfant, et il arrive devant le cadavre, et Toubal-Caïn dit « mais c'est grand-papa Caïn ». Alors, de saisissement, la mère étrange Toubal-Caïn. Voilà ce que dit le Midrash. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que le sursis a fini. Si Caïn est mort, et comment il est mort? Il a été tué par la première arme que sa descendance a fabriquée. C'est-à-dire la première arme a tué le premier assassin. C'est comme c'est joli. Alors, de saisissement, la mère se rend compte que le sursis est fini, alors il en étrange. Son enfant. Et il revient avec le cadavre de l'enfant d'un côté, le cadavre de l'ancêtre de l'autre côté, il revient chez ses femmes. Et ses femmes vont dire c'est comme ça, c'est fini, alors on ne fait plus d'enfant. Mais c'est ce qui arrive entre le verset 22 et le verset 23. Alors les mères disent à ses femmes, femmes de les mères, écoutez ma voix. C'est là qu'il intervient. Alors il a fait un beau poème en disant. Je vous expliquais juste très rapidement quelques aspects. Si Israël, si les fisseries, les héros, les chaburati. C'est-à-dire, si j'ai tué celui-là, celui qui pour la première fois a été appelé homme, c'était qui? C'était Caïn, Ish. Hein? Oui? Kaniti, Ish, et Hachem. Le premier être qui a été nommé Ish, par Chava, c'était Caïn. Qui Israël, si j'ai tué le Ish, c'est les fisseries. Finalement, je ne veux pas vous dire tout de suite parce que ça me prendrait trop de temps. Il faut étudier tout un chapitre d'Isaïe pour comprendre ces deux vers, ces deux versets en tout cas. Mais fisserie, ça veut dire c'est moi qui en suis, responsable. Veillez-les et l'enfant, c'est donc Toubal-Caïn. Un Midrash dit, il s'agissait finalement du premier meurtre de quelqu'un qui était à la fois un homme et un enfant, c'était Abel. Mmh. Rappelez-vous ce qu'on a vu cet après-midi pour Yaakov. Un peu comme ça. Ish et Yelet, c'est Abel. Quelqu'un qui était aussi, avait autant de valeur et autant de pureté. Autant de valeur que l'homme et autant de pureté que l'homme. Alors voilà le raisonnement de l'émer à ses femmes. Il dit, le meurtre de Caïn était vraiment un meurtre. Hein? Tandis que le meurtre qui vient de se passer là, c'est inconscient, enfin c'est irresponsable. Alors si déjà pour un vrai meurtre, Dieu a donné 7 générations de sursis, alors pour un meurtre innocent, il donnera 77. Alors les femmes de l'Émer répondent dans Rashi, ça c'est un raisonnement de Shtout. C'est un raisonnement illogique. Pourquoi ? Parce que si le sursis de Caïn est fini, le sursis de Caïn est fini, et il n'y a pas de suite. Bien. Et alors elles ont dit, on ne veut plus avoir d'enfants. Ça c'est la réaction des femmes dans une société qui est arrivée à devenir fonctionnelle, où il n'y a plus de Ish, où il n'y a plus de Yelel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Une société fonctionnelle, il n'y a plus d'individus, Ish, et il n'y a plus d'enfants. L'enfant n'appartient pas à sa famille, et l'homme n'appartient pas à sa femme. Est-ce que c'est bien compris ? Une société de ce genre, réaction, les ligues féminines. Hein ? Si c'est pour faire des enfants, pour aller faire la guerre, on ne veut plus faire d'enfants. C'est ce verset-là. Bien ? Alors, qu'est-ce que dit le maire ? Il dit, ça ne marche pas, la société humaine va disparaître, il faut continuer à faire des enfants. Voilà. Alors les femmes ont dit, eh bien, on va au tribunal. Quel tribunal ? Le premier homme. Alors on est allé chez le Dayan, c'était Adam Arishot. Voilà. Et alors, on a donné le procès devant le premier homme. Les mères a dit, tu vois ce qui arrive ? Les femmes ne veulent plus enfanter. Elles disent qu'il n'y a pas de Ish, qu'il n'y a pas de Yéled, alors on ne fait plus d'enfants. Et les femmes ont dit, bien sûr, puisque le sursis de Caïn a fini, nous sommes perdus, nous sommes condamnés, à quoi ça sert de faire des enfants pour qu'ils meurent ? Vous y êtes ? Vous voyez le déroulement de... Et regardez à quel point, enfin déjà depuis assez longtemps en Occident, c'est le stade de la civilisation contemporaine. Avec des nuances, parce que c'est quand même pas un Caïn pur et simple. Bon. Et c'est plutôt la Chine. C'est plutôt enfin ce que ferait la révolution culturelle chinoise si elle y arrivait. C'est-à-dire là, c'est poussé à la limite, c'est-à-dire c'est la tendance de la civilisation occidentale telle qu'elle a été reprise en compte par ce qu'on nous appelle maintenant la révolution culturelle chinoise. Je ne veux pas du tout dire qu'étymologiquement, Caïn et Chine, c'est la même chose, mais il semble bien, enfin non, ça c'est comme d'habitude une coïncidence, mais il semble bien qu'il y ait quelque chose de cet ordre. Alors, si vous lisez attentivement ce qui se passe là-bas, d'après ce qu'on peut le dire en catégorie occidentale, ça ressemble beaucoup plus qu'en Russie, ou beaucoup plus qu'en Amérique ou ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon, on est arrivé là, frère. Et alors, Adam Arishon dit, eh bien, il faut quand même espérer. Il faut quand même espérer. Voilà le verdict d'Adam Arishon. Quand même espérer, ça veut dire qu'il faut quand même avoir des enfants. Alors les femmes de l'Émer ont dit à Adam Arishon, comment toi, on t'a tué un seul enfant, Abel, tu t'es séparé de ta femme, ça veut dire que tu n'as plus d'autres enfants. Oui. Et nous, tu nous demandes de continuer, donne d'abord l'exemple. Alors, verset 25, Adam, de nouveau sa femme, et lui, un autre fils, c'est Seth. Bon. Eh bien, on va un peu réfléchir, si vous voulez, à la situation qu'il y a maintenant. Vous avez suivi, c'est pas trop vite ? Bon. Alors, je reprends. Vous avez fait un chiffon ? C'est pas tout. Adam. Et puis, de Adam, lui a eu son Caïn et Eve. C'est bien clair, oui. Et nous avons vu que la relation entre Caïn et Eve n'est pas univoque. Il y a deux relations complémentaires. Vous vous rappelez de ça, vous reprenez votre cours à ce sujet. Et par conséquent, l'histoire va se développer dans la lignée de Caïn, et Abel est en quelque sorte le berger de cette histoire, celui qui peut assurer le salut dans cette histoire. Vous y êtes ? Seulement ce qui se produit, c'est que dès le début, Abel est supprimé. C'est donc une civilisation qui se développe sans sauveur. Alors habituez-vous déjà à ces termes limites. Hein? Abel, c'est en quelque sorte le Mashiach de la lignée de Caïn. Oui. Et voilà que ce Mashiach a été bref. Et la civilisation de Caïn se développe et arrive à une saturation. Le sursis est terminé, c'est fini. Bien, à ce moment-là, Adam met de nouveau au monde Seth. À la place de Hevel, d'après la version. Oui, à la place de Hevel. Et nous sommes avertis d'ailleurs que Seth sera inassassinable, parce que le verset dit, à la place de Hevel que Caïn avait assassiné, on le sait. Oui. Alors c'est pour nous apprendre qu'en tout cas celui-là, qui a à la place un travail. Et c'est son nom, Stav, Chef, Chat. Vous voyez ?
Bon.
Alors là. C'est pour ça qu'il dit aux femmes de le désespérer, puisqu'il a de nouveau. Elles peuvent de nouveau engendrer, les gens peuvent être sauvés par chair.
C'est ça. C'est-à-dire que Adam a dit aux femmes d'espérer avant de l'engendrer. Ouais. Et si elles n'avaient pas eu le mérite de faire confiance devant la foi, mais il ne leur avait pas donné. Si elles avaient dit. Tout ça est en filigrane dans le texte, mais c'est la cohérence du Midrash. Si elles avaient dit on ne peut pas espérer, okay, bon, on vient de désespérer. Alors, désespérer. Vous y êtes ? Bon, mais ce que je vais apprendre tout à l'heure est très important. Donc, chef a pour fonction de mettre au monde une lignée qui va sauver, qui va tenter de sauver cette civilisation de Caïn qui, à partir de ce moment-là, est en train de se multiplier par copie conforme. Vous y êtes ? La société est devenue fonctionnelle et c'est les petits dômes qui se fabriquent. Mais là, il y a une autre manière d'être homme, une personnalité humaine d'une autre nature qui va avoir pour fonction de sauver cette femme. Oui. Mais en tout cas, première chose qu'on apprend et qui est extrêmement importante, c'est que lorsqu'il est nécessaire d'y avoir signé un sauveur, c'est de l'identité humaine qu'il possède. Alors avec ce verset, le christianisme, c'est tout. La manière dont la Torah nous parle de l'apparition de Shem comme sauveur de l'humanité condamnée, eh bien, disqualifie la théologie chrétienne. C'est des gens qui n'ont jamais lu la Bible, ce qui est évident par ailleurs. Vous avez compris pourquoi ? C'est-à-dire, s'il y a besoin d'un sauveur, eh bien, c'est, si j'ose dire, le troisième homme. Ça veut dire que c'est un autre homme, une autre manière d'être homme. Et toutes leurs histoires à dormir debout, hein, c'est pris chez les Halomot et les païens. Ça y est ? Regardez ce que dit le verset de la Bible qu'ils ont entre les mains, seulement c'est les mains d'Ésaü. C'est Vayeda Adam Od et Tishto Vatelet Ben Vatikhaet Shemo Shef. Ça y est ? Vous avez compris ? Bon. Est-ce que c'est bien clair ? Voilà donc l'implication la plus importante. Alors nous allons voir qu'une nouvelle lignée va apparaître et qui va se façonner par engendrement jusqu'à situer dans l'histoire un descendant de Shem qui sera Noach, hein, qui pourrait être au même niveau que l'état où l'humanité de Caïn est arrivée. Et nous allons voir qu'on voit ça brièvement, on en prendra ça en détail par la suite, je vous explique de quoi il s'agit. Ici, Shem est engendré par Adam à un niveau de valeur beaucoup plus haut que le niveau de chute où était arrivée la civilisation de Caïn. Oui ? Alors ce messie de la civilisation de Caïn est trop haut pour eux. Oui ? Vous y êtes ? Il est trop haut pour eux. Il faut qu'il se modifie jusqu'à arriver à un stade analogue. C'est Noir. Et au moment où Noir apparaît, les hommes disent « Ah, celui-là va peut-être pouvoir nous sauver ». Jusque-là, c'était trop. Je vous dis tout de suite le verset. Mais non, hein. C'est le verset.
Carfait.
Vaïkra et Shemo Noach, les mots, Zeinachamenu et Marasenu et Zodem. Vous voyez, quand Noach est né, alors on a dit, celui-là va pouvoir nous consoler. C'est le consolateur, et jusque-là, pourquoi pas, ils étaient encore trop hauts. Vous ne pouvez pas prendre en charge. Nous avons vu d'ailleurs le risque que ça représente pour Noach. Il est dans une société d'Urshaïm au même niveau que. Vous vous rappelez de ça ? Oui ? Et on va voir qu'il va quand même échouer. Bon. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Alors en tout cas, cette nécessité pour l'humanité de Shem de se modifier dans le sens de, si vous voulez, de descendre de niveau pour être au niveau de ce qu'il faut prendre en relais, vous suivez ? Eh bien, nous l'avons dans le verset suivant. Regardez, verset 26. Où le chef Gamrou Yuladvel, et à chef lui aussi, il y a eu un fils. Verset 27. Vous voyez le verset ? Alors, regardez le texte. Alors, c'est ce Gamrou, lui aussi, qui nous renvoie d'abord à ce fameux gamou de Havel, vous vous rappelez, qu'on a vu aussi chez...
Oui.
Bon. Et alors, on va reprendre ce gamou, lui aussi. Pourquoi lui aussi? Pourquoi la Torah nous dit, et Hachette lui aussi, et pourquoi pas le pauvre, il n'a pas le droit d'avoir un fils? Pourquoi Hachette gamou de Havel? Parce que pour lui, c'est étonnant. Mais voilà, on a fabriqué le produit fini qui peut être le sauveur. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir de fils, c'est fini. C'est le Ben Adam, celui-là. Oui? Non, mais même à lui, il y a eu un fils. Pourquoi? Parce qu'il faut se modifier jusqu'à ce que... Hein? Vous avez compris?
Et moi, c'est le fils de lui.
D'un autre. Celui de la lignée de Seth. Je veux dire, d'ailleurs, ça c'est une règle qu'il faut bien garder en tête. Avant de poser une question, d'ailleurs, il faut toujours poser aux questions. Mais avant de poser une question, on dit, enfin, quand même, il n'a pas pensé à ça. Le texte. Bien, parce que des fois, ça fait perdre du temps. Alors, vous avez donc compris le problème. Premièrement, ce qu'on apprend, c'est extrêmement important, que lorsque arrive la nécessité qu'apparaît le sauveur, là, le sauveur sort de la matrice humaine. C'est le bel Adam, vous y êtes, et que toutes ces structures des chrétiens, ben c'est en dehors. Et puis deuxièmement, on voit cette nécessité d'un engendrement, donc comme si d'une histoire. Mais cette histoire est très périlleuse pour la lignée de Seth. Parce que finalement, l'ordre de la lignée de Seth, comme nous allons voir, va être pris de vertige. Il faut se diriger vers le bas. Et à force de se diriger vers le bas pour les autres, alors on risque de tomber dans le néant. C'est très périlleux, cette relation entre Seth et Caïn, c'est-à-dire entre le juif et le goy. On risque de s'assimiler. Mais c'est exactement ça. C'est bien clair? Nous y sommes. Vous vous rappelez, dans la lignée des patriarches, surtout, ne prends pas de fille, c'est canard. Ben, c'est ce qui va leur arriver. Les descendants de Seth vont prendre des filles, chez les gens de Caïn. Mélange, et après ce mélange, tout est perdu. C'est-à-dire, à un certain stade, et je pensais que c'était ça qu'on allait étudier, on n'a pas tellement, enfin, je vous l'ai dit, mais déjà, revoyez votre texte. Juste après, on va nous apprendre ça. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que les hommes de la lignée de Seth, et je vais vous expliquer pourquoi ils sont appelés Bnei Elohim, ont pris des femmes chez les hommes de la lignée de Caïn. Alors, mariage mixte. Oui. Résultat? Alors, résultat, les enfants qui sont nés de ce mariage mixte sont des bâtards de la lignée de Seth, mais ce sont des barons dans la lignée de Caïn. Alors, regardez le texte. Alors, je vous lis très rapidement, chapitre 6. Chapitre 6, à partir du verset 1. Et il arriva, lorsque l'homme eut commencé à se multiplier sur la surface de la terre, alors ils eurent des filles. Et il s'agit de qui? De la lignée de Caïn. Et Vayiru Bnei Elohim. Pardon?
Pardon? Comment il s'agit de la lignée de Caïn?
Je vais vous le montrer tout à l'heure. Vayiru Bnei Elohim, et je vous traduis les enfants de Seth. Hein? Il y a marqué Bnei Elohim, et je suis en train de traduire les enfants de la lignée de Seth. Mais je vais vous montrer dans le texte. Et les enfants de la lignée de Seth virent les filles de Caïn, qui tovotena, parce qu'elles étaient bonnes à voir, enfin belles. Vaïkula et Nashim, ils en prirent comme femme, Mikolacher Baharou, de tout ce qu'ils ont préféré, choisi. Et Dieu dit, bon, alors c'est fini pour vous. Sursis de 120 ans, on verra ça plus tard. Alors sautez le verset 3, verset 4. Hanéphilim hayuvaret vayanimahe. Les Néphilim, c'est les géants, dont parle la mythologie ancienne, étaient sur la terre en ce temps-là. Le gamaharech nashe yabou bena Elohim el benot Adam. Et même après qu'il y a eu ce mariage mixte, les Hema Giborim, ce sont eux, ces héros, Hashem Meolam Che Hashem, qui depuis toujours sont les gens de renommée. C'est ces héros dont parle la mythologie. Vous savez que la mythologie parlait des dieux, des demi-dieux, des héros, etc., les initiateurs de civilisation pour les sociétés primitives, etc. Oui, c'est les gens issus des mariages mixtes entre les hommes de Seth, qui est la lignée noble, et les hommes de Caïn, qui est la lignée roturière. Alors il en résume qu'ils sont, par rapport à la lignée d'Achet, ils sont néphilim, ils sont tombés, néphilim, ils sont avortés, hein, mais par rapport à la lignée de Caïn, ils sont giborim. Voilà, vous retrouverez dans votre mémoire de vos études littéraires la cohérence de ce dont parlent les sociétés primitives en disant qu'il y avait des dieux. Oui. Et puis il y avait aussi des géants, puis il y avait aussi des héros, et on a appris, tout ce qu'on a appris, on l'a appris d'eux. Vous voyez, tout se passe comme s'il y avait des sociétés de papous, c'était les gens de l'Union de Caïn, hein, et puis il y avait les gens de la, comment on appelle ça aujourd'hui, les gens de la coopération internationale, hein, les coopérateurs. Hein, c'est ça, l'aide au tiers-monde. Ils sont allés leur apprendre jusqu'à apprendre. Voilà, on appelle ça que des géants, c'est des héros. Surtout quand ils sont français, ils aiment ça. Hein. Bon. Alors, vous avez compris le problème. Maintenant, il nous reste à élucider très rapidement pourquoi je vous ai dit que l'un c'était la lignée d'Achète et l'autre la lignée de Caïn. Mais en tout cas, la question est la suivante. C'est que ce mélange, c'est qu'il n'y a pas d'issue. Pourquoi ? Il ne reste plus de lignée de Chet capable de sauver la lignée de Caïn. Il n'y a plus ni Caïn ni Chet. C'est le mélange. C'est le problème qu'on a étudié d'autre part avec la relation entre les patriarches et le pays canon. Vous vous rappelez de ça ? C'est bien clair ? Et le Midrash nous apprend que d'ailleurs, Shem, Chad, c'est Shem lui-même ? Noach est né de l'Emer qui avait épousé Naama. Vous voyez, c'est le maire de la lignée de Chet qui a épousé l'âme, et Noir est né de là. C'est Noir, oui. Bien. Alors voilà, vous allez confronter deux versets que je vais vous donner maintenant pour comprendre effectivement pourquoi les uns s'appellent Bnei Elohim et les autres s'appellent Bnei Adam. Bnei Adam. Et ensuite, il nous restera un point, rappelez-moi si j'oublie, pourquoi lorsque les Bnei Adam se sont multipliés, ils ont eu des filles. Et pourquoi ces filles étaient belles ? Elles ont été tellement belles qu'elles ont séduit les hommes de la lignée de Chut. Si vous voulez, je simplifie un peu. Vous allez prendre le premier verset du chapitre 5. Alors, le premier verset du chapitre 5 dit ceci. Sefer Todot Adam. Voici le livre des engendrements de l'homme. Beyom Bero Elohim Adam Dmut Elohim Asaot. Du jour où Dieu créa l'homme, il le fit dans le dessein des dans le projet. Dessein, pas dessein, IN. Hein? Pas dans l'image, le projet. Le Dieu. C'est-à-dire que l'homme a été créé. On en parle de ça déjà? Cette année, non. L'homme a été créé, il est conforme au projet qu'il doit réaliser. C'est bien clair? Eh bien, ensuite, verset 3, Vayi Adam Shoshimun Hatshana, et l'homme était âgé de 300 ans, Vayolet Bitmuto Kesalmo, et il engendra à la ressemblance de ce projet, Vayikra et Shemoshé. Et il le nomma Chef. C'est-à-dire Chef est vraiment à la ressemblance du projet que doit réaliser Adam. Et comment s'appelle ce projet ? Tserem Elohim. C'est-à-dire le projet que Dieu a assigné à Adam. Chef est un Ben Adam réussi. Alors qu'on ne trouve pas que lorsque Adam a engendré Caïn et Abel, il est engendré à l'image de son modèle. Je suis allé très vite, mais je pense que vous avez compris. Celui-là, c'est bien le Ben Adam, tel que Adam est au point de départ de son histoire. Tandis que celui-là, c'est le Ben Elohim, parce qu'il est le Ben Adam du Tselem Elohim. Vous y êtes ? Parce qu'entre-temps, Adam a fait Tshuva. Et lorsqu'il engendre Chet, c'était un Adam réussi qui a engendré Chet. Celui-là est un vrai Ben Adam, c'est-à-dire le Ben Tselem Elohim. Alors on les appelle les hommes de cette lignée, on les appelle les Bnei Ha Elohim. Ceux-là, on les appelle les Bnei Ha. Si vous voulez, nous reprendrons ça plus en détail la prochaine fois. En tout cas, ça vous résout les problèmes, et je vous signale que c'est, entre autres, l'enseignement que Avraham Avinu a donné. sur ce problème. Bien. Alors, ça, c'est pas tellement une difficulté. Vous voyez, nous avons deux lignées, une qui est plus conforme au modèle du créateur et l'autre qui ne l'est pas. Ça y est ? Eh bien, que se passe-t-il dans cette lignée ? C'est une lignée qui voue à l'échec. Et comme nous avons vu déjà une fois un cours de Sidra, il me semble, ou en tout cas, peut-être un cours de Sidra, mais il me semble un Shabbat, enfin vous me direz parce que je mélange des années maintenant. Lorsque une lignée est vouée à l'échec, alors tout ce qu'elle a de valeur en elle, finalement, culmine dans la forme féminine. Ça veut dire les femmes des sociétés perdues sont les plus belles. Ben, c'est pour ça. Oui. Et alors, voilà ce qui arrive. Dans la lignée de Caïn, les femmes sont très belles, et c'est l'indice, enfin, d'une certaine beauté taureau-hémin. Hein, et c'est l'indice que la lignée est arrivée dans une impasse de l'indice. C'est la raison. Je vous explique. C'est exactement la beauté qui s'est dit des jeunes juifs quand ils voient les goyotes. C'est ce genre de beauté. Bon, si vous avez expérimenté ça, vous savez de quoi je parle. Sinon, vous le saurez à jour. Parce que c'est un problème de psychologie sociale très clair. Ça ne veut pas dire que les femmes juives ne sont pas belles. D'ailleurs, moi j'ai trois filles, on peut pas me dire ça. Vraiment, voilà. Qu'est-ce que cherchent les jeunes gens juifs dans un mariage juif? Il y a une manière d'être belle propre au goyote qui est autre. Mais c'est ce genre de choses-là. Si vous savez faire l'analyse, vous comprenez de quoi je veux parler. Et c'est ça que les Bnei Elohim ont vu chez les notaires. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a un moyen de résorber cette tentation, c'est qui nous est donné d'ailleurs dans notre temps, c'est le mariage mixte à l'intérieur d'Israël. Entre Faradim et Ashkenaz. À ce moment-là, ça se résorbe. Bien. Alors on va s'arrêter là et on reprendra ça.